Ici, Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, messieurs.
Cordier !
Daniel Cordier.
Monsieur le maréchal Pétain.
Cordier, allume la radio !
Daniel Cordier, mort centenaire en 2020, a eu plusieurs vies, chacune aussi imprévue et extraordinaire l'une que l'autre. Celle de collectionneur d'art, celle d'historien, mais d'abord celle d'espion de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme c'est souvent le cas pour les espions, ce sont les événements inattendus de l'histoire, en l'occurrence la guerre et l'occupation, et aussi un peu de hasard, qui ont amené le jeune Français de 19 ans à s'engager dans cette voie clandestine et risquée. En juin 1940, alors que la France était envahie par les Allemands et que Pétain appelait les Français à abandonner le combat, Daniel Cordier, jeune homme révolté, patriote et bagarreur, comme il le disait lui-même, débarquait un peu par hasard en Angleterre et s'engageait à Londres dans les troupes encore clairsemées d'un certain général de Gaulle. Daniel Cordier, exalté, impatient, voulait se battre à la classique, en uniforme, les armes à la main, pour tuer du Boche, comme on disait à l'époque. Mais c'est autrement, d'une manière totalement imprévue, qu'il allait combattre, comme homme de l'ombre, au BCRA, les services secrets de Gaulle. Et du danger et de la peur, il en a eu plus que de raison, quand de 1942 à 1944, il a été missionné en France occupée, comme opérateur radio, le poste le plus risqué, puis comme secrétaire de Jean Moulin, le représentant en France du général de Gaulle. La rencontre avec cet homme d'exception et les 11 mois à travailler sous ses ordres allaient profondément modifier le regard sur le monde du jeune agent secret, au point de déterminer toute la suite de sa vie. L'arrestation de Jean Moulin en 1943 fut pour lui un véritable traumatisme. À la fin de la guerre, devenu compagnon de la Libération, Daniel Cordier, qui en toute logique aurait dû intégrer les services secrets de la 4e République, tourna le dos pour toujours au renseignement et se lança dans une nouvelle aventure.
Excusez-moi.
L'art.
Combien pour le tableau en vitrine ?
'Marie, soyez gentille, faites des dibots, couchez-le. Après, vous pourrez partir.
Voilà, ils arrivent.
On va dîner tous les deux.
Daniel Bouijou est né en 1920 dans une famille de la bourgeoisie aisée de Bordeaux. Après une enfance assez triste et solitaire, ballottée entre des parents divorcés et un pensionnat catholique, Daniel, dont la mère s'est remariée, prend le nom de son beau-père, Cordier. Un homme pour lequel il éprouve affection et admiration et dont les opinions politiques d'extrême droite auront sur lui une grande influence.
La manifestation du 6 février de réprobation patriote place de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
Après les émeutes du 6 février 1934, qui manquent de peu de renverser la Troisième République, Daniel adhère avec conviction à l'Action française, le parti monarchiste, nationaliste et antisémite de Charles Maurras.
Demandez l'Action française ! Demandez l'Action française ! Contre la vermine démocrate, demandez l'Action française ! Contre l'Action française !
Son activisme politique est si intense qu'il en abandonne ses études. Mais cette jeunesse, à la fois tumultueuse et rangée, s'achève brutalement, pour Cordier, comme pour beaucoup d'autres de sa génération, le 3 septembre 1939, quand, après l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler, la France déclare la guerre à l'Allemagne.
À la nouvelle de cette agression cynique et barbare, calme, résolu, les Français rejoignent leur corps, sachant que c'est pour abattre la plus effroyable des tyrannies qu'ils prennent les armes. Les enfants de Paris sont dirigés sur les centres où tout a été prévu pour leur sécurité, leur bien-être et aussi la continuation de leurs études.
Mais pour Cordier, pas question de retourner à l'école. Contrairement à son héros Charles Maurras, profondément pacifiste, le jeune homme, lui, ne rêve que de s'engager. Mais il est trop jeune. Son père refuse. Les mois passent, La guerre franco-allemande, qu'on appelle la drôle de guerre, s'enlise. Mais en mai 1940, les Allemands lancent l'offensive. En quelques jours, l'armée française, la première armée du monde, dit-on, est en déroute. Rien ne semble pouvoir arrêter les panzers d'Hitler, qui le 14 juin, à la stupeur générale, entrent dans Paris. Le 16 juin, Cordier apprend avec soulagement l'arrivée au pouvoir de Philippe Pétain. Le héros de Verdun, il en est sûr, va relancer la guerre et chasser l'envahisseur. Le lendemain, Cordier, qui vit alors près de Pau avec sa mère et son beau-père, attend fébrilement devant son poste de radio le discours qu'à midi 20, le nouveau président du Conseil doit prononcer.
Le maréchal va parler, dépêche-toi !
Sans imaginer le choc qu'il va recevoir. Un choc qui va changer sa vie.
Radio-Division nationale de l'État français. Mesdames, messieurs, monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Dégoûté, Cordier, après avoir beaucoup pleuré, décide avec l'accord de ses parents de partir en Afrique du Nord, territoire français non occupé, pour poursuivre la guerre. Il faut faire vite, les troupes allemandes ne sont plus très loin. Le 21 juin à Bayonne, Cordier avec 16 camarades trouve un bateau belge en partance pour le Maroc. Mais contre toute attente, le navire est dérouté vers la Grande-Bretagne. Et c'est en pleine mer que Cordier apprend la signature de l'armistice. Deux jours plus tard, avec ses camarades, il débarque en Angleterre, un peu éberlué par les événements, mais toujours décidé à se battre.
You there, Sergeant Reed, shut the door.
Les gars, il y a un général français à Londres qui a fait un discours incroyable.
Quel général ?
Général de Gaulle.
Arrivés à Londres, ils rejoignent les rangs, encore très maigres, des futures forces françaises libres de De Gaulle. Un homme qui frappe Cordier par sa froideur.
Je ne vous féliciterai pas d'être venu. Vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ses enfants se doivent de la sauver. Ce sera dur. Ce sera long. Mais à la fin, nous vaincrons.
Cordier choisit d'être affecté à l'infanterie, avec toujours en tête son obsession d'aller se battre en Afrique. Mais décidément, rien ne se passe comme prévu. Après une formation militaire, il est obligé pendant des mois de suivre des cours pour devenir officier. En juin 1941, son moral est à zéro.
J'ai tout quitté pour venger ma patrie. Et après un an d'espérance et de dur labeur, je ne comprends plus mon engagement dans cette armée, tant mon activité est devenue dérisoire.
Rassemblement sur la piste !
Pourtant, ces longs mois sont aussi l'occasion pour le jeune Maurassien de rencontrer des hommes aux idées politiques, aux origines et aux parcours personnels très différents des siens, mais qui, il s'en rend compte, partagent le même amour de la France. Un jour, alors que Cordier est allongé sur son lit à lire, son camarade, François Briand, l'entraîne à l'écart.
Ça y est, je pars.
Quoi ?
Quand ? Dans quelques jours.
Mais comment t'as fait ?
J'ai rencontré un officier des services secrets de la France libre, le BCRA. Il m'a proposé de m'engager pour des missions en France.
Pour faire quoi ?
Je sais pas. On ne pose pas de questions dans le service.
Ils prennent d'autres volontaires ?
Je sais pas, l'officier est toujours là. Tu veux le voir ?
Mais tu parles, quelle question ?
C'est ainsi que ce 5 juillet 1941, Daniel Cordier, 19 ans, rencontre discrètement le capitaine Bienvenu, le chef de la section Action du BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action. Le vrai nom de Bienvenu est Raymond Lagier, mais comme son chef, Passy, il a pris le nom d'une station de métro parisien en guise de nom de code. Bienvenu demande à Cordier s'il est volontaire pour n'importe quelle mission en France. Comme vous l'imaginez, le jeune homme acquiesce. Le BCRA a été créé un an plus tôt sur ordre de De Gaulle pour fournir aux Britanniques du renseignement sur ce qui se passe en France occupée. Mais le service pêche encore par son amateurisme. Passy et ses collaborateurs, qui n'avaient aucune expérience du renseignement, ont dû tout apprendre sur le tas. Et au bout d'un an, s'ils ont déjà lancé de nombreuses missions outre-Manche, il manque toujours cruellement d'hommes et de moyens. Le 13 juillet, après 8 jours d'une attente insoutenable, Cordier a rendez-vous à Londres avec le colonel Passy. Cordier est frappé par le visage enfantin du chef du BCRA, mais aussi par son regard d'acier. Avant toute chose, Passy tient à mettre en garde le jeune homme sur les risques si particuliers de la fonction d'espion.
La guerre clandestine que nous conduisons en métropole n'est pas celle pour laquelle vous êtes préparé. Elle se vit seule et sans uniforme. Vous n'aurez pas le réconfort moral que vous apporte l'armée régulière. Vous vivrez seul. Pas de dimanche, de samedi, de permission. Vous êtes au front 24 heures sur 24 parce que la police et la Gestapo vous traqueront jour et nuit.
C'est en effet ce que Cordier vivra quand il sera en France. Passy lui explique aussi une autre différence de taille avec l'armée régulière. En cas d'arrestation, contrairement aux soldats faits prisonniers qui sont protégés par les accords de Genève, l'espion, lui, peut être interrogé, torturé, afin de lui soutirer des renseignements. Et s'il parle, il peut mettre en échec sa mission et en danger la vie de ses camarades.
Nous vous remettrons une capsule de cyanure. Avant de vous engager, je vous demande d'y réfléchir. Si vous doutez de vos capacités, il est encore temps, et nullement honteux, de retirer votre candidature.
Intérieurement, le jeune homme s'interroge. Est-il courageux, lui qui n'a jamais été confronté vraiment au danger ? Mais il ne recule pas. Quelques jours plus tard, Cordier part avec d'autres volontaires du service action du BCRA au camp britannique de Ringway, où il commence un entraînement intensif. Pour la première fois de sa vie, il monte dans un avion et apprend à sauter en parachute.
À Ringway, on formait l'infanterie du ciel. Devenir parachutiste a l'air d'un jeu brutal pour des garçons solides. On ne croit pas que ce soit si simple. Il s'agit d'arriver au sol à la vitesse de 5 mètres à la seconde, les jambes bien jointes pour doubler la résistance au choc et sur la pointe des pieds pour augmenter l'élasticité. Il s'agit d'apprendre à sauter.
À Ringway, Cordier s'initie aussi à l'armement et au sabotage.
Parachutiste, dans cette dernière guerre qui a changé toutes les stratégies et toutes les tactiques, a dû retrouver l'arme primitive du dynamitéro. Il doit connaître l'emploi de tous les explosifs et tous les secrets des grenades et des bombes.
Sabotage de transformateurs, écluses, barrages, wagons, locomotives, avions, plasticage de camions ou de voies ferrées, organisation d'atterrissage et de décollage d'avions en pleine nature, marche nocturne à la boussole, franchissement de rivières à la nage, mais aussi, quand il s'agira de neutraliser une sentinelle allemande, Cordier apprend à tuer au poignard et au pistolet silencieux, et si besoin aussi, à la mitraillette, cette arme inconnue dans l'armée régulière, jusqu'alors utilisée surtout par les gangsters de Chicago.
Fin de l'exercice !
Mais en janvier 1942, en apprenant qu'il doit maintenant s'initier au codage et au décodage, ainsi qu'à la transmission radio, Cordier explose de colère.
Combien de temps faudra-t-il pour que je sois opérationnel ? 6 mois ? 1 an ? La guerre sera terminée depuis longtemps.
Son chef lui promet alors que cette étape est la dernière avant son départ.
Bonjour, messieurs. Le temps de survie des opérateurs radio est extrêmement court. Disons quelques mois au maximum. Il est donc vital que vos transmissions soient courtes et espacées dans le temps pour éviter de vous faire repérer. Messieurs, mettez vos casques.
Mais Cordier le découvre, l'apprentissage du morse, de l'émission et la réception de messages radio, sans parler du montage et du démontage des postes émetteurs-récepteurs, tout cela demande beaucoup de patience. Enfin, le 23 juin 1942, Cordier prend son petit déjeuner quand il est appelé d'urgence au QG du BCRA. Il apprend qu'il va être parachuté avec ses camarades Héral et Briand dans la nuit du 25.
Voici vos papiers d'identité. Au nom de Charles Daguerre.
Bienvenue donne à Cordier ses faux papiers d'identité au nom de Charles Daguerre, journaliste, une enveloppe à remettre en main propre à Rex, le nom de code de Jean Moulin, et lui explique sa mission qui doit rester secrète. En France, il sera l'opérateur radio du résistant Georges Bidault, qui dirige le BIP, Bureau d'information et de propagande, sorte d'agence de la presse clandestine. Le soir du 25 juin 1942, Bienvenue fait à Cordier ses dernières recommandations.
J'attends de vous une extrême prudence, Cordier. Pas de risque inutile.
À l'aérodrome, on fournit à Cordier et à ses camarades leur équipement, leur combinaison de parachutistes, des repas concentrés, un revolver, un couteau à cran d'arrêt et enfin la fameuse pilule de cyanure.
Voici une capsule cyanure. Il suffit de le mettre dans la bouche, de la croquer.
Mais Daniel Cordier, qui n'a pourtant que 21 ans, est déjà sans illusion.
Depuis mon engagement, j'ai la certitude que je n'en reviendrai pas.
À 11h, à la nuit tombée, Cordier et ses camarades montent dans le Whitney bimoteur qui attend sur la piste et s'installe à même le sol. Pendant le vol, pour conjurer l'attente et l'angoisse, il joue au poker en buvant du thé. Soudain, l'avion qui a été repéré par la DCA allemande pique brutalement. Cordier voit sa dernière heure arriver. Par chance, l'avion n'est pas touché. Au-dessus de Montluçon, vient le moment de sauter. La trappe est ouverte, les parachutistes sont prêts, quand soudain, l'opération est annulée. Faute des signaux lumineux réglementaires sur le terrain. L'avion repart donc en Angleterre. La vie d'espion est décidément faite de contretemps et de frustration. Ce n'est qu'un mois plus tard, le 24 juillet, que Bienvenue annonce à Cordier, c'est pour demain.
Et alors, saute! Au revoir et bonne chance! Saute!
Cette fois, le vol et le parachutage se déroulent comme prévu.
Monsieur, nous vous attendions. Venez, il faut faire vite.
Arrivé à terre, Cordier et ses camarades, émus de retrouver la France qu'ils ont quittée 2 ans plus tôt, sont accueillis par des résistants qui les conduisent à Montluçon. 2 jours plus tard, ils prennent le train pour Lyon, la capitale encore pour quelques mois de la zone non occupée. À l'arrêt de Saint-Étienne, la porte du compartiment s'ouvre brutalement. 2 policiers viennent contrôler les papiers. C'est la première fois que Cordier est confronté à la police de Vichy. Sa fausse carte d'identité va-t-elle faire illusion ?
Contrôle d'identité. Papier, s'il vous plaît.
Après une minute qui semble une éternité, le policier lui rend ses papiers sans un mot. Cordier respire. Mais ce n'est qu'un répit. Pendant les 20 mois que l'agent du BCRA sera en mission en France, l'attention sera permanente, de jour comme de nuit. En arrivant à Lyon, Cordier découvre la réalité du régime de Vichy.
À Lyon, une émouvante cérémonie commencée par une veillée d'armes auprès de la flamme sacrée réunissait près de 5000 membres du service d'ordre légionnaire.
En arpentant les rues de Lyon, Cordier, qui vit en Angleterre depuis 2 ans, s'étonne des visages fermés des habitants, de leurs habits sombres en plein été, de la nourriture immangeable des restaurants, qui résulte des pénuries et des restrictions. Le 31 juillet, après un long périple dans la ville, avec la peur d'être découvert, Cordier, avec toujours son enveloppe cachée sous sa chemise, entre dans un vieil immeuble vétuste. C'est là, dans un appartement du 2e étage, qu'il rencontre pour la première fois Rex, le représentant en France du général de Gaulle. Jusqu'à la fin de la guerre, Cordier ne connaîtra pas la véritable identité de Rex, ni son passé. Jean Moulin, haut fonctionnaire sous la 3e République, chef de cabinet de Pierre Cotte pendant le Front populaire, préfet qui a été révoqué en 40 par Pétain. Cordier lui remet l'enveloppe qui contient le courrier et l'argent du BCRA. Rex, en veste de tweed et pantalon de flanelle grise, le surprend par son élégance et sa gentillesse.
Si vous êtes libre, rejoignez-moi à 7h au Garret, un restaurant du même nom près de l'Opéra.
Le soir, au restaurant, les deux hommes dînent en tête à tête. Rex, 42 ans, demande à Cordier de lui raconter son histoire. Surpris et touché de cette attention, le jeune homme de 21 ans raconte avec confiance et sincérité, sans éluder son engagement à l'Action française. Un brin amusé, Rex l'écoute avec intérêt, lui, le républicain Dreyfusard. Après le dîner, Cordier accompagne Rex devant sa porte. Au moment de se séparer...
Venez ici demain matin à 7h. Je vous garde avec moi. Vous serez mon secrétaire. Bonsoir.
Cordier est stupéfait et inquiet. Il a été envoyé en France pour devenir l'opérateur radio de Georges Bidault. Comment va réagir le BCRA à Londres? Et pourquoi Rex le choisit-il, lui? En l'analysant, Cordier, avec modestie, mettra ce choix sur le compte d'un manque cruel d'agents. Et puis, il se dit aussi qu'à cause de sa jeunesse, Rex pourra le former plus à sa volonté. C'est le début d'une collaboration étroite qui durera moins d'un an jusqu'à l'arrestation de Rex en juin 1943. Mais la rencontre avec cet homme exceptionnel sera déterminante pour Daniel Cordier, pour le reste de sa vie. En attendant, la tâche de Cordier, nom de code Alain, est énorme et épuisante. Il organise le secrétariat de Rex, qui jusqu'à présent travaillait seul. Chaque matin à 7h, il se rend chez son chef pour lui donner son courrier et recueillir ses messages à envoyer. Cordier ne note rien, trop dangereux. Il mémorise tout. 7 jours sur 7, parfois tard dans la nuit, il doit chiffrer et déchiffrer les messages qui arrivent et ceux à transmettre à Londres. Un travail fastidieux où l'erreur peut être fatale. Pour alléger sa tâche, Cordier recrute à Lyon des agents et constitue une petite équipe solide et sûre de secrétaires et d'agents de liaison, la plupart très jeunes. C'est Cordier également qui met en lieu sûr l'argent qui a été parachuté de Londres et qui fixe les rendez-vous de Rex, en particulier avec les représentants des mouvements de résistance, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, Henri Freinet, Christian Pinault ou Jean-Pierre Lévy.
Mais je n'ai pas répondu à votre papier car j'en condamne les termes. Mais que veut dire les mouvements ne sont pas toute la résistance? Vous avez imaginé la stupeur des militants devant cette formulation inexacte et scandaleuse? Vous avez pensé à tous ceux qui ont choisi la lutte contre les Allemands au premier jour de la défaite? Il est hors de question qu'on livre la résistance aux politiciens d'avant-guerre comme un marchepied pour leurs ambitions.
Chaque jour, les résistants payent le prix fort pour parler au nom de la France. Nous avons des droits, ceux des martyrs. Nous ne laisserons pas confisquer la victoire par des hommes déchus. Les fantômes de la faillite, la révolution, c'est nous.
Je vous préviens, on ne vous laissera pas faire.
Des réunions souvent houleuses, où les chefs de la résistance intérieure réclament toujours plus de moyens financiers à Londres et en même temps, renâclent à reconnaître l'autorité de Rex que ses hommes de terrain jugent illégitime. Rex, pourtant, a toute la confiance de De Gaulle. Au quotidien, Daniel Cordier, comme tous les agents du BCRA, vit dans la solitude et la clandestinité, sans attache réelle avec la population locale, avec en permanence la peur au ventre d'une arrestation ou d'une dénonciation.
Il faut absolument que vous soyez toujours sur vos gardes.
Quand son logement est brûlé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a été repéré par la police, Cordier doit déménager avec le danger de transporter dans la rue son revolver et sa lourde valise d'opérateur radio.
Dehors, la rue est vide. C'est dimanche et à cette heure-là, les gens font la sieste, tout volet clos. Loin de me rassurer, cela me paraît suspect. Attentif au moindre indice, je m'efforce de marcher posément.
Avec les 1200 francs qu'il touche par mois, il doit se loger et se nourrir, mais ne peut améliorer son ordinaire par du marché noir, comme le font les Français. Trop risqué. N'utilisant que ses tickets de rationnement, le pauvre Cordier a souvent faim et perd du poids. Rex, lui, a une fausse carte d'identité au nom de Joseph Marchand, artiste peintre. Cordier, s'étonnant qu'il ait choisi comme couverture une profession aussi voyante, Rex lui répond en souriant
« Détrompez-vous, Cordier. Le plus voyant est toujours invisible. Personne ne soupçonnerait Picasso d'être un espion. Vous connaissez Picasso ?»
Cordier n'a jamais entendu parler de Picasso. Il ne connaît rien à l'art, encore moins à l'art contemporain. C'est Rex qui, dans une relation quasi filiale, initie le jeune homme qui, un jour après la guerre, deviendra un grand collectionneur d'art. Le 11 novembre 1942, la situation déjà très dangereuse à Lyon devient encore plus périlleuse pour la résistance.
L'action anglo-américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes.
Désormais, la France entière est occupée par les Allemands.
Depuis un mois, la police de Vichy nous pourchasse. Aujourd'hui, ce n'est plus au milieu de Français que nous allons opérer, mais des boches, cruelles et implacables.
Au début de l'année 1943, Jean Moulin est appelé à Londres par De Gaulle. Pendant son absence, Cordier se trouve dans la situation inédite de le représenter et parfois de prendre des décisions à sa place.
Nous sommes en guerre. J'attends de vous que vous preniez des initiatives.
Une situation difficile pour Cordier, notamment quand les chefs de la résistance intérieure, qui ne voient en lui qu'un blanc-bec, le harcèlent pour obtenir plus d'argent, des armes et des faux papiers. La résistance est en effet débordée par l'afflux dans les maquis des jeunes réfractaires du STO, service du travail obligatoire imposé par l'occupant.
Messieurs, voici Alain, qui représente Rex en son absence. Il est régulièrement en contact avec lui à Londres, et c'est un homme de confiance.
Je l'espère, car la situation est grave.
La situation est devenue intenable.
Nous avons besoin de vous, vous devez nous aider. Enfin, vous avez de l'argent, vous pouvez au moins nous donner de l'argent.
Finalement, sans contact avec son chef, Cordier prend l'initiative de donner à la résistance l'argent qu'elle réclame. Quand Rex revient en France en mars 1943, il révèle à Cordier qu'il a été désigné par De Gaulle pour constituer le Conseil de la Résistance qui siégera à Paris. Le futur CNR doit réunir toutes les forces politiques et syndicales françaises afin de conforter la légitimité de De Gaulle face aux Anglo-Américains quand viendra l'heure de la libération. Le 25 mars 1943, Daniel Cordier, qui est chargé d'organiser le déménagement du secrétariat, arrive à Paris. Avec étonnement et inquiétude, il découvre une capitale dangereuse, grouillante d'uniformes allemands. Avant le rendez-vous prévu avec un agent de liaison dans un café des Champs-Élysées, il se rend sur la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Alors qu'il s'éloigne, Cordier, l'ancien militant de l'Action française, celui qui, comme Horace, maudissait les Juifs, croise soudain un vieil homme et un petit garçon qui portent sur leur veste une étoile jaune.
Le choc de cette vision me plonge dans une honte insupportable. Subitement, mon fanatisme aveugle m'accable. C'est donc ça, l'antisémitisme ?
En quelques jours, Daniel Cordier monte dans la capitale un réseau sûr d'agents de liaison et trouve un appartement pour Rex. Bientôt, tout est prêt pour la réunion du Conseil de la Résistance qui se tient le 27 mai 1943 dans un appartement du 48 rue du Four dans le quartier Saint-Germain. 17 chefs de la Résistance, de partis politiques et de syndicats réunis au même endroit. Une folie quand on pense qu'à quelques centaines de mètres seulement, l'hôtel Lutetia est occupé par l'Abwehr, le service de renseignement et de contre-espionnage de l'état-major allemand. Pendant la réunion qui s'étire en longueur, Daniel Cordier est chargé à l'extérieur de guetter tout mouvement suspect.
Je suis de plus en plus tendu. Je doute soudain de nos mesures de sécurité. Même en téléphonant depuis la cabine, les hommes du conseil auraient-ils le temps de fuir de l'entresol où se tient la réunion ?
Malgré l'angoisse, cette réunion stratégique, historique pour la libération de la France, se termine sans problème. Mais quelques semaines plus tard, la résistance est touchée par une avalanche d'arrestations.
Police, les patrouilles.
Le 22 juin 1943, sur le quai du métro Châtelet à Paris, Cordier attend Germain, son agent de liaison, qui doit lui apporter des nouvelles de Rex, qui entre-temps est retourné à Lyon. Une rame s'arrête, Germain en sort.
Germain court à ma rencontre. Il est blême et me dit seulement « Le patron ». Je comprends avant qu'il ajoute arrêté.
Rex a été arrêté la veille avec d'autres résistants lors du fameux rendez-vous de Caluire près de Lyon. Le représentant de De Gaulle sera torturé et sans avoir parlé, mourra dans un train en direction de l'Allemagne. Effondré, Cordier pour l'instant ignore tout cela.
Les métros se succèdent. Je reste prostré sur le quai. Les Boches s'en sont pris à l'homme qui incarne la liberté. Il faut que je parte à Lyon pour organiser son évasion.
Cordier est vite dissuadé par ce projet un peu fou. Malgré sa peine immense, il poursuit sa tâche. Mais sur lui également, l'étau se resserre. Il a tenu 11 mois sans accroc, ce qui est énorme. Mais son tour viendra, il sait que les Allemands possèdent sa photo. Cordier, épuisé par près de 2 ans de clandestinité, demande à être relevé de ses fonctions et retourne à Londres au printemps 1944, en passant par Madrid, où il va au musée du Prado admirer les toiles de Velázquez dont Rex lui avait tant parlé.
Vous aimez ce tableau ? Regardez ce trait, la force de ce trait.
En octobre 1944, 4 mois après le débarquement et 2 mois après la libération de Paris, Daniel Cordier se rend un soir à un dîner avec un ami résistant qui est accompagné d'une jeune femme. « Qui est-elle ? » demande Cordier. « C'est la sœur de Jean. »« Mais qui est Jean ? » répond Cordier. « Voyons, c'était ton patron, Jean Moulin. » C'est ainsi que Cordier apprend la véritable identité de Rex. Le 20 novembre 1944, Cordier se voit remettre par De Gaulle la Croix de la Libération, la distinction qui toute sa vie lui sera la plus chère. Mais que faire de sa vie maintenant que la paix est revenue ?
Que pouvais-je bien faire à 25 ans lorsque mon seul apprentissage, 5 années de guerre, consistait à organiser une vie clandestine, à utiliser des explosifs et à tuer à l'arme blanche ou avec une arme à feu ?
Sa voie dans le renseignement semble toute tracée. En 1945, Passy, son ancien patron du BCRA, nomme Daniel Cordier, chef de cabinet des nouveaux services secrets de la France libérée. Mais en janvier 1946, le général de Gaulle quitte le pouvoir.
De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. De Gaulle ira-t-il demain dans ce petit village de Colombey, habiter une maison qu'on répare, qui est la sienne ? Cette maison qu'il n'a jamais encore habitée, mais dont il disait à Londres, ma maison de France.
C'en est trop pour Daniel Cordier, qui, dégoûté, démissionne. Il décide alors de changer de cap. Suivant les pas de Jean Moulin, il se lance dans une autre aventure, l'art. Il devient collectionneur et marchand d'art contemporain. De 1956 à 1964, sa galerie est une des plus importantes à Paris.
À quelques pas de l'Élysée, Alain Cordier tient une galerie de peinture où il expose des toiles très modernes, la galerie Daniel Cordier. Alain Cordier n'est autre que l'ancien secrétaire de Jean Moulin.
Daniel Cordier, qui refuse d'être un ancien combattant, a coupé les ponts avec la plupart des ex-résistants, mis à part les compagnons de la Libération. Il prend tellement ses distances qu'en 1964, il a été oublié des invitations pour la cérémonie du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. Finalement, le 19 décembre 1964, Cordier fera partie de la garde d'honneur qui, pendant la nuit, veillera le catafalque de son ancien patron. Mais son plus bel hommage, il le rendra plus tard. Le 11 octobre 1977, Daniel Cordier est invité à la télévision à participer à l'émission des dossiers de l'écran consacrée à la résistance. Une vive polémique l'oppose alors à Henri Freinet, le chef du mouvement de résistance Combat, qui accuse Jean Moulin d'avoir été un agent crypto-communiste. Cordier, seul contre tous, prend la défense de son ancien chef et promet qu'il apportera des preuves de la loyauté de Jean Moulin. C'est à ce travail colossal de recherche et d'écriture biographique que Cordier consacrera les 20 années suivantes de sa vie. L'ancien espion du BCRA, compagnon de la Libération devenu galeriste, devenait ainsi historien. Daniel Cordier meurt à l'âge de 100 ans le 20 novembre 2020.
Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter avec les comédiens Grégoire Roqueplot, Benoît Marchand et les voix de Jérôme Boulet, Baptiste Collion et Éric Lenné. Avec des extraits du téléfilm Alias Caracalla au cœur de la résistance d'Alain Tasma. Mixage Basile Bocquer, documentation Frédéric Martin, réalisation Audrey Ripouille.